Jean-Madeline, le revoir. C'est un des bienfaits de Paris d'être le grand rendez-vous des sympathisés éparses. La ville incomparable n'est pas seulement la cité du luxe et de l'intelligence, le centre des affaires et des plaisirs. Il faut l'aimer davantage encore pour cette charitable et rare douceur. Elle est la ville où l'on se retrouve. Elle offre ainsi un espoir consolant à la plus grande tristesse de ce temps. La vie moderne, mouvante et tourmentée, nous entraîne de toutes parts dans ses remous et ses tourbillons. Elle éloigne, elle rompt, elle emporte, elle sépare. Fuite des mains, des yeux, des robes, départ, abandon, dispersion. Petite fin continuellement autour de nous. En nous, l'éternel mort dans la vie. Plus que les autres, les fonctionnaires, les officiers, tous les hommes de profession errante connaissent la misère de cette destinée. Ils dressent leurs tentes, engagent des relations, nouent des liens, souvent légers et éphémères, parfois plus étroits ou plus forts, mais quand ils commencent à s'attacher, ils partent, ou, ce qui est pis encore, voient partir autour d'eux, car leur intimité est ouverte à tous les courants d'air. Ainsi s'effilochent et s'éparpillent les sentiments affectueux. Ainsi se disloque et se disperse leur âme. C'est la peine de ceux qui ne restent pas au coin natal et qui contient leur existence au vent des grandes routes. Mais les autres, ceux qui demeurent sous le toit où se posent les pigeons familiers, les sages qui enferment leur vie dans la maison blanche tapissée de roses grimpantes, les heureux qui gardent autour d'eux, à portée de la main, toute leur tendresse et tous leurs souvenirs. Sont-ils à l'abri des coups de la rafale? L'inconnu rôde autour de la Maison Blanche. Un soir, il entre brusquement à la fenêtre, le regard qu'il faut suivre, et l'autre, fidèle, est déraciné, lui aussi. Ses tendresses et ses souvenirs sont emportés par la tempête, dispersé dans tous les horizons. Allons, boucle ta valise et va-t'en parmi les errants. Ah, la mauvaise vie, secouée trépidante, faite de liaisons fugitives et de séparations. C'est en vain que nous nous renforçons de retenir les mains à un moment rencontré et qui nous sont devenues chères. Les trains sifflent, les paquebots démarrent, les mouchoirs de loin vous font signe. Adieu. Adieu. Non, pas adieu, il ne faut pas se dire adieu. Mais quoi, où se rejoindre? On ne se retrouvera jamais dans le coin de province qui, par hasard, vous a passagèrement réuni. C'est un chemin qu'on ne refait pas en arrière. Mais il y a quelque part dans la grande mouvante un point d'atterrissage, un rocher de mer qui se dresse parmi les tourbillons. Et alors, chaque fois, à la portière des wagons, à la passerelle des paquebots, revient la même phrase d'espérance. Paris, qui sait si nous ne rencontrerons pas quelques jours à Paris? Et le miracle, c'est qu'on s'y rencontre. Devant un café, au coin d'un boulevard, sur le bord d'un trottoir, pour une heure, pour une minute, dans le soir tumultueux, parmi la foule écrasante, mais les yeux se retrouvent, les mains se joignent, le passé refleurit pour une saison brève et douce. Sois béni, Paris, Paris terrestre du revoir. Entre tous ces revoirs qui sont l'œuvre de la bonne ville, sans doute n'en est-il qu'aucun plus imprévu et plus touchant que celui que je voudrais conter ici. C'est une aventure humble et minime, qui répond à un charme de grand prix. Deux petits personnages étaient unis par leur destinée dans une retraite paisible. À vrai dire, ils étaient en bois taillé et sculpté. Ils représentaient l'ange Gabriel et la Vierge Marie et formaient eux deux la scène de l'Annonciation. Ils étaient issus d'un artiste inconnu des hommes qui avait mis toute sa foi et son génie dans la finesse des figures et la grâce des attitudes, rien n'était plus noble que la salutation de l'angélique messager, et rien n'était plus pur que les mois chastes de la Vierge. Ils avaient vu le jour au XIVe siècle, et depuis lors, ils se tenaient côte à côte dans l'église de Noyon, où ils avaient l'emploi d'être un bel ornement. Ainsi, ils étaient sans doute un peu des fonctionnaires, mais leur profession paraissait sédentaire. Il semblait donc que cela fût attaché l'un à l'autre à jamais. Pourtant, cela aussi, la vie devait les séparer. Ils étaient ensemble depuis près de 5 siècles, quand un soir du mois de mai 1793, la révolution qui grondait dans la rue pénétra brusquement dans l'église. Elle arracha les saintes images, renversa les autels fleuris pour la fête de la Marie, piétina les reliques et le groupe de l'Annonciation n'échappa pas à ses mains sacrilèges. D'un rude coup de hache, les deux personnages furent violemment séparés, meurtris, isolés, bafoués, brutalisés. Ils continuèrent l'un et l'autre, connurent des laides heures douloureuses. Après avoir été ballottés à travers la tourmente, l'ange Gabriel et la Vierge Marie partirent chacun de son côté sur les chemins d'exil. Enfin, après maintes traverses, quand le malheur des temps se fut calmé, chacun d'eux trouva un asile. L'ange Gabriel fut hospitalisé dans un musée du Dauphiné, où d'autres pièces éclopées comme lui et de naissance médiocre finissaient leurs jours dans le silence et l'abandon, et la Vierge Marie fut recueillie par un grand seigneur russe qu'il avait acquise à prix d'or d'un vieux juif de Breslau. Dans leur refuge éloigné, ils goûtèrent la sécurité et la paix. Mais aucun des deux n'avait oublié l'autre. Ce n'est pas en vain que l'on a passé quelques siècles côte à côte. L'ange Gabriel n'était pas détourné du souvenir rayonnant de sa Vierge par les pauvres bons hommes infirmes qui l'entouraient. Il continuait de présenter ses salutations angéliques, mais il ne savait pas de quel côté de l'espace il devait la tourner, et de se prosterner avec adoration devant une personne absente, cela lui donnait l'air gauche et un peu nigaud. Et là-bas, dans la rue si lointaine, que faisait-elle la Vierge Marie? Elle avait rencontré, parmi la riche collection que possédait le grand seigneur, de nouveaux compagnons dont certains même étaient plus beaux que l'ange Gabriel. Mais qui serait fidèle si la Vierge Marie n'était pas? Seulement, chez elle aussi, l'isolement faisait que son attitude ne semblait pas raisonnable, car son chaste émoi, qui était si délicieux lorsque l'ange annonciateur se tenait devant elle, n'avait plus de raison d'être, maintenant qu'il n'y avait plus là personne pour le provoquer. Ainsi, la séparation de leur carrière rendait vraiment leur rôle difficile. Et chacun d'eux pensait à l'autre et se demandait « Mais qu'est-il devenu ?» Le charme en miracle devait se produire, que cela aussi se retrouverait à Paris. Oh, il ne faut pas penser qu'ils se soient rencontrés un soir sur le boulevard, mais c'est Paris tout de même qui les a réunis. Aux approches de l'exposition de 1900, un inspecteur des Beaux-Arts, visitant les musées de province, découvrit l'ange Gabriel. Frappé de la beauté de cette figure, il s'attacha à reconstituer l'Annonciation disjointe pour l'exposer au Petit Palais. Les recherches qu'il fit l'amenèrent à connaître l'existence de l'autre pièce dans la collection du grand seigneur russe. Et celui-ci, ayant consenti de bonne grâce à prêter sa Vierge en bois sculptée pour la durée de l'exposition, l'ange Gabriel et sa Vierge Marie eurent cette surprise enchantée de se retrouver un jour tout à coup réunis dans une vitrine du Petit Palais. N'est-ce pas une chose charmante que ce rapprochement des deux petits personnages, depuis si longtemps séparés, produit à des disputes infinies? Les gens qui passaient regardaient les merveilles étalées de toutes parts. Ils admiraient, mais ils ne savaient pas qu'il y avait dans un coin de vitrine une aventure merveilleuse et touchante. Et tandis que la foule circulait autour d'eux, indifférent à ce qui les entourait, ignorant la foire gigantesque dont ils étaient une infime parcelle, les deux collègues de l'Annonciation, goûtait sans doute avec simplicité la douceur de se retrouver ensemble, sans connaître par quelle voie mystérieuse ils y étaient arrivés. À la vérité, ils ne durent pas comprendre davantage pourquoi, au bout de 6 mois, on les séparait encore. Ils ne savaient pas que les rencontres à Paris sont toujours rapides et brèves. L'exposition finie, chacun regagna son poste, car leur carrière était désormais désunie. Mais 6 mois de revoir, c'est déjà quelque chose. Et la destinée qui les a éloignés, peut-être, les réunira-t-elle encore? Il ne faudrait pourtant pas que dans cet unique dessin, on fît une autre exposition.